Monsieur John O'Gwynn. Une vie de soumission. Frères et sœurs, c'est un réel plaisir d'être ici parmi vous. Ça fait toujours plaisir de revenir à San Diego. Et je crois d'ailleurs que nous allons nous revoir sous peu. En effet, j'étais ici durant la semaine passée pour un enregistrement télévisé, et je vais devoir revenir dans 2 semaines pour une réunion du Conseil des Anciens. Cela dit, à nouveau, cela me fait toujours plaisir d'être ici, et j'ai bien hâte de vous rencontrer après les services. Il y a beaucoup de livres qui parlent de succès. Beaucoup de gens veulent réussir, et beaucoup de personnes ont réussi à enseigner à d'autres comment réussir. De fait, ils en ont même fait leur métier. Eh bien, je veux aujourd'hui vous donner une clé qui garantira que vous n'aurez pas de succès. S'il est une chose qui vous garantira de ne pas atteindre le succès dans votre vie, ce sera de vous fier qu'à vous-même. Oui, une vie autonome ne mènera jamais à un véritable succès. Et pourtant, une vie motivée par un esprit soucieux d'autonomie ne sera-ce pas le genre de vie que nous poursuivrons naturellement? C'est effectivement la voie que nous choisirons naturellement, mais elle ne conduira jamais au succès véritable. Je veux aujourd'hui examiner brièvement à quoi mène une vie autodirigée, mais plus que cela, je veux que nous nous penchions sur l'alternative à une telle façon de vivre, car il y a une alternative. Et cette alternative est une vie de soumission. Oui, de soumission. Comment allons-nous, vous et moi, mettre en pratique une telle alternative dans notre vie? Voyons un exemple pour commencer. Voyons où nous aboutirions si nous insistions pour diriger notre vie. Ceux qui font appel à une telle philosophie ne passeront pas à côté du succès parce qu'ils désirent échouer. Ils prennent plutôt le contrôle de leur vie parce qu'ils pensent pouvoir être les artisans de leur propre succès. Ils ont peur de l'alternative. Ils ont peur de se soumettre. Ils ont peur que Dieu ne les fasse échouer d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi ils préfèrent prendre le contrôle du volant pour s'assurer qu'ils arriveront là où ils pensent pouvoir arriver. Nous trouvons un tel exemple dans le livre de Jérémie, et nous allons nous y attarder un peu. Le contexte de cet événement particulier se trouve d'ailleurs non seulement dans le livre de Jérémie, mais aussi dans 2 Chroniques et dans 2 Rois. Il y est question d'un jeune homme qui accède au trône de Juda quelques années seulement après la mort de son grand-père. Son grand-père avait été le plus mauvais roi de toute l'histoire de Juda, ce qui n'est pas peu dire. Il s'appelait Manassé. Manassé eut un fils qui ne resta sur le trône que très peu de temps. Après, ce fut au tour de Josias, le petit-fils de Manassé, d'y accéder. Josias n'avait alors que 8 ans. Évidemment, au cours de ses premières années, Josias n'était pas vraiment en charge. Il y avait alors un régent pour diriger la nation. C'est vraiment lorsque Josias atteignit l'âge de 16 ans qu'il s'est mis à rechercher Dieu. On peut dire que son cœur était porté vers Dieu. C'est pourquoi, en prenant de l'âge, lorsqu'il put prendre le contrôle de la nation, Josias s'est lancé dans une période de grande réforme. Nous constatons que cela débuta vraiment lorsque Josias fut proche de la 20aine, donc durant la 13e année de son règne. Et c'est à peu près à la même époque, ou peut-être 1 an plus tard, que Jérémie commença à représenter Dieu. Dieu se mit à parler à travers Jérémie et à l'utiliser comme son serviteur. Notez que Jérémie était lui aussi très jeune, bien que la Bible ne nous dise pas quel âge il avait. Tout ce que l'on sait, c'est que lorsque Dieu lui dit « Jérémie, j'ai un travail à te confier », sa réponse fut « Je suis bien trop jeune ». Je ne peux pas faire quelque chose comme ça. Tu sais que je ne suis qu'un enfant. » Jérémie était peut-être encore un adolescent à l'époque. Il avait peut-être 2 ou 3 ans de moins que le roi Josias, qui avait alors environ 20 ans. En lisant le récit du règne de Josias, vous apprenez qu'il procéda à la rénovation du temple de Jérusalem pour ensuite en faire la dédicace au milieu de grandes célébrations. Suivit alors l'événement le plus marquant de son règne, lequel eut lieu lors de sa 18e année au pouvoir. C'était à l'occasion de cette dernière année du jubilé qui fut observée dans le pays de Juda et qui donna lieu à la célébration de cette Pâque mémorable dont parlent les Écritures. Au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire, d'autres événements se produiront, jusqu'à ce que nous arrivions à la fin de la vie de Josias quelques années plus tard. Il mourut sur le champ de bataille, alors qu'il était encore un homme relativement jeune. Les Égyptiens s'étaient mis en marche en direction de l'Euphrate, avec l'intention de combattre les Assyriens, et Josias avait alors attaqué les Égyptiens et était mort au cours de la bataille de Megiddo. Il s'ensuivit une période de grande instabilité. De son vivant, Josias s'était tourné vers Dieu de tout son cœur. Il voulait vraiment servir Dieu, alors même que Dieu avait prophétisé la destruction de la nation. Cependant, par l'intermédiaire de Jérémie, Dieu avait annoncé à Josias, et indirectement au peuple, qu'il ne détruirait pas la nation du vivant de Josias. Mais, sitôt après la mort de Josias, Jérémie s'est vu confier la tâche d'écrire le livre des Lamentations, où il se lamente au sujet de la mort du roi. Le livre des Lamentations peut être considéré sous plusieurs angles. D'une part, c'est une complainte au sujet de Josias, un roi qui s'était mérité le qualificatif de juste. Mais, simultanément, il annonce aussi des événements qui allaient se produire par la suite, au cours des années suivantes, événements qui ont marqué l'histoire de la nation de Juda. Parmi eux, il était notamment question de la destruction de Jérusalem. D'autre part, dans un sens prophétique, ce livre décrit également des événements qui se produiront des siècles plus tard, lors de la seconde destruction de Jérusalem en l'an 70 de notre ère. Finalement, ce livre des Lamentations est même prophétique de la grande tribulation et des événements qui lui sont associés. En effet, les destructions précédentes de Jérusalem n'étaient finalement qu'un type des événements qui vont se produire au temps de la fin. Lorsque Josias mourut au combat, cela a bien sûr jeté la nation dans la consternation. Josias avait plusieurs fils, mais ce ne fut pas son fils aîné qui allait lui succéder en premier lieu. En effet, certaines personnes choisirent plutôt d'établir un autre fils de Josias pour lui succéder. C'était fort probablement son deuxième fils, que la Bible nomme Joachaz ou encore Shalum. C'est lui que l'assemblée du peuple établit sur le trône. Mais il n'y est resté que 3 mois, car lorsque les Égyptiens, qui avaient été responsables de la mort de Josias, repassèrent par Jérusalem, ils furent mécontents du jeune homme qui siégeait alors sur le trône. Ce dernier, selon ce que rapporte Jérémie, faisait manifestement partie d'une coalition anti-égyptienne. Il faut savoir qu'il y avait des factions rivales au sein du gouvernement de la Judée. Toutes ces factions avait cependant un même objectif, celui de préserver l'indépendance de la nation, de préserver leur statut. Toutes ces factions cherchaient donc à se protéger, même si leur stratégie différait, et toutes étaient convaincues d'avoir un plan efficace. Cela dit, ceux qui avaient placé Shalum sur le trône prévoyaient évidemment de s'allier avec les ennemis de l'Égypte. Hélas pour eux, c'est l'Égypte qui s'est finalement imposée en tant que puissance dominante. Oui, les Égyptiens sont revenus en force, ce devait être vers l'an 608 avant Jésus-Christ, et ils ont alors saisi Shalum, l'ont emmené en Égypte, et ont placé son frère aîné Joachim sur le trône. Ce dernier était lui aussi un jeune homme, qui pouvait, d'après moi, avoir environ 25 ans. On peut dire de Joachim qu'il ne cherchait pas vraiment Dieu d'aucune façon. En fait, il n'était qu'une marionnette au service des Égyptiens, en ce sens que la faction qu'il représentait en Juda était pro-égyptienne. À cette époque, le Proche-Orient était le théâtre d'une grande lutte pour le pouvoir. Cela impliquait essentiellement l'Égypte, la puissance dominante au sud, et Babylone, la puissance montante au nord et à l'est, laquelle avait en peu de temps absorbé une grande partie de l'empire assyrien. Oui, Babylone, sous la férule de Nebuchadnezzar, qui avait accédé au trône environ 3 ans après la mort de Josias, donc vers 605 avant Jésus-Christ, s'était rendu maître des Assyriens et s'apprêtait maintenant à lancer une invasion contre les Égyptiens. Son désir était finalement de s'emparer de tout le Proche-Orient. Eh bien, c'est au jeune roi Joachim, le fils aîné de Josias, que le prophète Jérémie a livré les messages de Dieu. Est-ce que Joachim a essayé d'imiter l'exemple de son père? A-t-il réellement cherché à servir Dieu? A-t-il cherché à faire les choses qui plairaient à Dieu? Absolument pas. Il a totalement ignoré Jérémie, se reposant plutôt sur son armée, sur la solidité des murs de Jérusalem et sur la fausse sécurité de son alliance avec les Égyptiens. Les choses ne se sont pas déroulées pour lui comme il se l'était imaginé. Même si Jérémie l'avait averti, il n'a pas voulu écouter. Finalement, Nebuchadnezzar est arrivé en 604 avant Jésus-Christ, après que Joachim eut occupé le trône pendant 4 ans. Nebuchadnezzar fit alors de Juda un état tributaire de l'empire assyrien. Plusieurs jeunes gens de race noble furent alors emmenés à Babylone. Parmi eux, Daniel, qui était peut-être encore un jeune adolescent à cette époque-là. Joachim continua cependant à recourir à des intrigues et à diverses stratégies pour assurer son indépendance vis-à-vis de Babylone. Et finalement, les Babyloniens sont revenus pour assiéger Jérusalem. Comme nous le verrons, Joachim mourut d'une mort très ignominieuse. Et ce fut alors au tour de Joachim, son jeune fils d'environ 18 ans, de devenir roi. Mais il ne fut roi que pendant 3 mois. En fait, je crois que 2 chroniques mentionnent qu'il ne fut roi que durant 3 mois et 10 jours. Les Babyloniens se sont rendus maîtres de lui, ce qui n'est pas surprenant, car il avait la même attitude que son père. Il avait sa stratégie, il avait ses plans. Les Babyloniens sont donc venus, ils l'ont arrêté, emmené enchaîné à Babylone, et ont mis son oncle Sédécias, le dernier des fils de Josias, sur le trône. C'est lui, Sédécias, qui s'est avéré être le dernier roi de Juda. Pendant tout ce temps-là, le prophète Jérémie n'a cessé de rapporter les messages de Dieu, ce que Dieu lui révélait à propos de Juda. Pour vous situer un peu dans le contexte, tournons-nous maintenant vers Jérémie chapitre 17 au verset 5. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Comprenez que Jérémie délivre ce message à de jeunes rois, aux 3 fils et aux petits-fils de son cher ami le roi Josias. En leur délivrant ce message de Dieu, Jérémie leur annonce qu'ils vont au-devant de multiples problèmes. Cela dit, tout ceci ne s'applique pas seulement à eux, cela s'applique aussi à vous et à moi. À nouveau, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et pourtant, n'est-ce pas naturel pour nous de mettre notre confiance et notre assurance dans ce que nous pouvons voir? Il est un fait que ce que nous pouvons voir, toucher, goûter et sentir, bref, tout ce que nous pouvons discerner avec nos sens physiques, c'est cela qui semble le plus réel. Et pourtant, ça ne l'est pas vraiment. Le grand Dieu qui remplit la terre et le ciel, c'est lui qui est l'ultime réalité. Vous voyez, ils plaçaient leur confiance en l'homme. Ils s'en remettaient à leurs alliances secrètes avec l'Égypte. Et l'histoire nous montre clairement que Joachim, de même que Sédécias, ont maintes fois pensé qu'ils allaient pouvoir se libérer de la domination babylonienne en raison de cet accord qu'ils avaient conclu avec les Égyptiens. Ils croyaient pouvoir se reposer sur eux. « Ne vous en faites pas, » disaient-ils. « Si un malheur devait nous arriver, Pharaon volerait aussitôt à notre secours. Plus vous parcourez le livre de Jérémie, et plus vous avez le sentiment que les gens continuent à penser qu'ils pouvaient compter sur l'Égypte pour faire contrepoids à Babylone. Ils allaient donc poursuivre leur tractation politique. Mais ça n'a pas marché. À nouveau, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Notez, comprenez cette déclaration très claire que Jérémie fait dans Jérémie chapitre 10, verset 23. Jérémie chapitre 10, verset 23. « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Lorsque nous nous fions, vous et moi, sur des stratégies de notre propre cru, lorsque nous planifions une vie à notre façon, bien que le succès soit sans aucun doute notre objectif, cela ne nous réussira pas. À nouveau, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Proverbe 14, verset 12, de même que Proverbe 16, verset 25, dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » On nous recommande plutôt de nous confier en Dieu pour ce qui est de nos démarches. Laissons-lui le soin de nous montrer le chemin. Poursuivons notre étude et allons à Jérémie chapitre 22 pour nous enquérir du message que Jérémie nous y donne. Il y est question de plusieurs jeunes gens que Jérémie avait vus grandir. Shalum, Joachim et son fils Joachim, ainsi que Sédécias. Donc, trois des fils de Josias et un de ses petits-fils. Jérémie avait vu grandir chacun d'eux. Il les avait vus croître en maturité depuis la mort de Josias et lors des événements subséquents. Jérémie avait vécu toute cette période et ce qu'il voyait arriver à la nation lui brisait le cœur. Ici, dans Jérémie chapitre 22, Dieu lui fait dire, Jérémie 22, verset 1, « Ainsi parle l'Éternel, descends dans la maison du roi de Juda et là prononce cette parole. » Verset 11, « Car ainsi parle l'Éternel sur Shalum. » Voyez-vous, c'est lui qui fut le premier à succéder à son père sur le trône. « Car ainsi parle l'Éternel sur Shalum, fils de Josias, roi de Juda, qui régnait à la place de Josias, son père, et qui est sorti de ce lieu. Il n'y reviendra plus, mais il mourra dans le lieu où on l'a emmené captif, et il ne verra plus ce pays. » Vous voyez, il y avait cette faction en Juda qui était persuadée que Shalum allait revenir au pays d'une manière ou d'une autre. Mais cela a été démenti par Jérémie, qui affirmait au contraire, « Écoutez, je vous le dis, il va mourir où il est. Vous ne le reverrez jamais plus. Il ne remettra plus jamais les pieds ici. Donc, ne fondez pas votre espoir sur des choses de néant. » Plus loin, au verset 18, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, fils de Josias, roi de Juda. » Joachim était le frère aîné de Shalum, qui avait peut-être 2 ans de plus, et qui avait succédé au trône après lui. Lisons ce que Jérémie annonce à Joachim. On ne le pleurera pas en disant « Hélas, mon frère, hélas, ma sœur ». On ne le pleurera pas en disant « Hélas, Seigneur, hélas, Sa Majesté ». Il aura la sépulture d'un âne. Il sera enterré comme on enterrerait un âne. Il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Il mourut manifestement durant le siège babylonien et fut jeté par-dessus la muraille. Jérémie a dit, « Joachim, tu te crois bien établi. Détrompe-toi. Ils vont se débarrasser de toi comme on se débarrasse d'un âne mort. Tu n'auras aucun honneur, aucune gloire dans ta mort. » En parcourant l'histoire, vous constatez que Joachim était un jeune homme méchant et arrogant. En fait, après que Jérémie eut écrit ces prophéties de Dieu, elles furent placées dans le temple. Certains de ceux qui les avaient entendues, y compris certains des dirigeants, avaient été si impressionnés qu'ils voulurent qu'on les apporte au roi Joachim pour qu'il en prenne connaissance. Pendant qu'on lui lisait la prophétie le concernant, Joachim l'écouta d'un air détaché et sûr de lui-même, tout en tenant un couteau de poche dans sa main. Après la lecture du document, Joachim se contenta de le saisir pour le découper en petits morceaux qu'il jeta dans un brasier où ils furent consumés. Il brûla ainsi toute la prophétie que Jérémie avait écrite, comme si cela pouvait l'annuler. Sur ce, Dieu ordonna à Jérémie Dis à ton scribe Baruch de sortir sa plume et son papyrus, parce que tout cela va être réécrit sans tarder. On allait même y ajouter un paragraphe supplémentaire. Joachim va ainsi apprendre ce qui va advenir de lui, à savoir qu'après sa mort, on disposera de son corps comme de celui d'un âne mort. Si vous parcourez l'histoire, vous apprendrez que son jeune fils, Joachim, qui avait alors 18 ans et qu'on appelait parfois aussi Jéconia, comme ici au verset 24, se fait dire, Jérémie 22, verset 24, « Je suis vivant, dit l'Éternel. Quand Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, serait un anneau à ma main droite, je t'arracherai de là. » Verset 25, « Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie, entre les mains de ceux devant qui tu trembles, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains des Chaldéens. » Vous voyez, Jéconia a effectivement pris le pouvoir à la mort de son père Joachim. Il n'est resté sur le trône que 3 mois. C'est ce que Jérémie avait prophétisé. Tu vas aussi aller en captivité. Et c'est ce qui lui est arrivé. Il a été enchaîné et emmené à Babylone. Plus loin dans Jérémie chapitre 23, nous voyons ces gens qui se reposaient sur différentes stratégies, sur différents plans. Tous rivalisaient entre eux pour assurer le succès de leurs entreprises. Il s'agissait en l'occurrence de faire appel à des alliances et à des traités conclus dans le secret. En gros, il s'agissait de divers plans pour que les Égyptiens envoient leur armée pour forcer les Babyloniens à se retirer. Toutes ces stratégies qu'ils avaient imaginées montraient clairement qu'ils ne mettaient pas Dieu au premier plan. Ils ne faisaient pas ce que Dieu leur demandait. C'est pourquoi Dieu leur dit par la plume de Jérémie, Jérémie 23, verset 23, « Ne suis-je Dieu que de près, dit l'Éternel, ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? » Dieu leur dit en essence, « Pensez-vous pouvoir vous cacher de moi? Vous avez cette stratégie, vous avez ce plan, et vous êtes persuadés que vous pouvez arriver à vos fins sans avoir à me consulter. Suis-je de trop ?» On semble oublier que Dieu dit qu'il remplit les cieux et la terre. Il n'y a aucun endroit où nous pourrions nous dissimuler, aucun endroit où nous pourrions aller sans qu'il ne le voie, sans qu'il ne le remarque. Frères et sœurs, nous devons comprendre que notre grand Dieu voit tout, qu'aucun aspect de notre vie ne lui échappe. Rendons-nous à présent à Jérémie chapitre 38, où le prophète reçoit des messages destiné au roi Sédécias. Il allait être le dernier roi à régner sur Juda. Il était le plus jeune fils de Josias et n'avait qu'environ 10 ans à la mort de son père. Mais les années avaient passé et il était maintenant monté sur le trône. Il avait environ 21 ans lorsqu'il est monté sur le trône. Cela se produisit juste après que les Babyloniens aient livré bataille à son neveu Jéconia, c'est-à-dire Joachim, et les emmenés captifs à Babylone. C'était vers 597 avant Jésus-Christ. Ainsi, Sédécias sera le dernier roi à accéder au trône en Juda. Il l'occupera pendant les 11 dernières années de la nation, jusqu'à la destruction de Jérusalem. Jérémie a eu un certain nombre de différends avec Sédécias. Sédécias était nerveux. Il s'était efforcé de négocier des accords avec les Égyptiens lorsqu'il se trouva confronté à l'arrivée des Babyloniens. Jérémie lui avait donné des conseils, mais il ne les avait pas suivis. Notez Jérémie 38, verset 14. Jérémie 38, verset 14. Le roi Sédécias envoya chercher Jérémie le prophète et le fit venir auprès de lui dans la 3e entrée de la maison de l'Éternel. Il ne voulait pas que cela se sache. Et le roi dit à Jérémie, « J'ai une chose à te demander, ne me cache rien. Dis-moi ce qui va se passer. » Quelle fut la réponse de Dieu? Verset 17. Jérémie dit alors à Sédécias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, et cette ville ne sera pas brûlée par le feu. Tu vivras, toi et ta maison. » Jérémie a donc dit à Sédécias, « Si tu te rends, et si tu vas vers les princes de Babylone, alors la ville sera épargnée, et le temple sera épargné. » Jérémie poursuivit au verset 18, « Mais si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui la brûleront par le feu, et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. » Le roi Sédécias dit à Jérémie, « Je crains les Juifs qui ont passé aux Chaldéens. Je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent. » Sédécias voulait dire, « Ils se moqueront de moi, ils m'insulteront, diront du mal de moi. Je ne veux pas aller là-bas, j'ai peur d'y aller. » Et Sédécias ajoutait, « Maintenant écoute, Jérémie, ne confie à personne que je t'ai fait appeler. » Puis il le renvoya. Si nous remontons le corridor du temps, nous découvrons que lorsque l'armée de Nebuchadnezzar eut fait une brèche dans les murs de Jérusalem, Sédécias tenta encore une fois de s'en sortir. Lui et certains de ses amis se sont alors échappés. Ils ont traversé le jardin du roi, ils sont sortis par l'arrière, ont traversé un champ, puis se sont enfuis. Hélas pour eux, il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils se fassent prendre. Ils ont finalement dû comparaître devant Nebuchadnezzar pour faire face à un sort horrible. Parlons d'abord du sort qui sera réservé à ses fils. N'oubliez pas que Sédécias était monté sur le trône à l'âge de 21 ans. Comme il régna pendant 11 ans, il avait donc maintenant 32 ans. Ses enfants ne pouvaient donc pas être bien âgés, tout au plus des adolescents. Eh bien, tous ses fils furent mis à mort en sa présence. Il a donc dû assister à leur exécution. Et c'est la dernière chose qu'il a vue, car après l'exécution de ses fils, les Babyloniens lui crevèrent les yeux, puis on lui mit des chaînes et on l'emmena prisonnier à Babylone. Quelle fin terrible! Évidemment que Sédécias n'avait pas planifié que sa vie se termine ainsi. Cela lui est arrivé parce qu'il avait peur de suivre les instructions de Dieu. Il avait peur de vivre une vie de soumission. Il tenait absolument à s'en remettre à lui-même. En étudiant la vie des derniers rois de Juda, vous constatez qu'ils avaient tous élaboré des plans. Ils plaçaient tous leur confiance en des choses dont ils étaient persuadés qu'elles allaient leur apporter le succès. C'est là le propre des gens qui se fient trop sur eux-mêmes, qui veulent en faire à leur tête, car ils sont sûrs de leur succès. Parce que, voyez-vous, il semble parfois que ce que Dieu nous dit de faire va à l'encontre de la logique charnelle. Lorsque les gens considèrent ce que Dieu nous propose, ils s'imaginent que cela ne peut pas fonctionner. On dira que ça ne fait pas de sens, que les gens vont profiter de nous, qu'ils se moqueront de nous, qu'ils vont abuser de nous. Alors ils seront réticents à agir. Voyez-vous, la peur est l'une des choses qui peut constituer un obstacle à la soumission. À la lueur de ce que nous avons vu précédemment, nous pouvons conclure que Sédécias avait peur. Il voulait se protéger contre la souffrance et contre l'humiliation. C'est cela qui l'avait motivé à poursuivre la stratégie qu'il avait élaborée de son propre chef. Il ne voulait pas être humilié, il ne voulait pas souffrir. Quel a été le résultat? Eh bien, il a souffert, beaucoup souffert même. Et il a été humilié parce qu'il a choisi de diriger sa propre vie plutôt que de laisser Dieu la diriger, plutôt que de confier sa vie et sa volonté à Dieu. Nous pouvons parcourir les Écritures depuis le livre de la Genèse jusqu'à celui de l'Apocalypse et nous constaterons que ce thème est présent un peu partout. Bien sûr qu'au départ, personne ne va se fixer des objectifs qui mèneront à la confusion et à l'échec. Personne ne planifiera d'en arriver là. Lorsque des gens participeront à des séminaires, ce n'est pas dans l'intention de faire un gâchis de leur vie. Un être normal ne va tout de même pas consciemment choisir un tel objectif, mais c'est pourtant ainsi que les choses finiront pour beaucoup d'entre eux. Vous n'avez qu'à observer certains individus. Ce seront peut-être des adolescents, ou des gens dans la vingtaine, ou dans la trentaine. Tenez, pensez à ces quatre derniers rois de Juda dont nous venons de parler, car ils répondent parfaitement à ces critères. Leur vie n'ont-elles pas abouti à un échec flagrant, et cela parce qu'ils avaient choisi d'emprunter leur propre voie? Pourtant Jérémie les avait mis en garde lorsqu'il dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, et ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas ». Il existe pourtant une approche différente. Il y a une autre façon de faire les choses, et c'est ce qui ressort clairement de cet exemple particulier que nous allons maintenant examiner. Certes, il y a plusieurs exemples d'individus qui ont vécu une vie de soumission, mais notre meilleur exemple, celui de quelqu'un qui s'est parfaitement soumis et qui doit être notre modèle, c'est évidemment celui de Jésus-Christ. Notez ce que Pierre dit à son sujet dans 1 Pierre chapitre 4, verset 1. 1 Pierre chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, de la pensée de Christ, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Que veut-il dire par là? Remarquez qu'il dit « armez-vous de la même pensée ». Cela dit, quelle était la pensée de Jésus-Christ? On le sait, Jésus-Christ a souffert dans la chair. Notez aussi qu'il est dit que « celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché ». Le fait est que, dans son esprit, Christ était déterminé à souffrir plutôt que de pécher. S'il devait avoir à choisir entre la souffrance, l'humiliation, les mauvais traitements ou les abus d'une part, et le péché d'autre part, il choisirait de souffrir. Il était prêt à souffrir plutôt que de pécher, et il s'en est tenu à cela jusqu'à la croix. C'est donc l'apôtre Pierre qui introduit ce thème ici. Il parle beaucoup de l'espoir et de la gloire qui sera révélée en nous. C'est ce qu'il fait dans 1 Pierre chapitre 4, verset 13, où il dit, 1 Pierre 4, verset 13, « Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Ce qu'il dit en essence, c'est que si vous avez l'esprit du Christ, vous préférerez souffrir plutôt que de pécher. Parce que n'importe qui peut être bon quand c'est à son avantage, quand c'est facile, quand c'est commode, quand ça produit immédiatement un bon résultat, ça se comprend. Mais Jésus-Christ portait ses regards au-delà du moment présent. Si nous sommes prêts à partager ses souffrances, alors nous pouvons être sûrs que lorsque sa gloire sera révélée, nous ressentirons une joie extrême, parce que nous partagerons alors avec lui cette même gloire. Vous savez, je pense que le plus grand obstacle à l'acquisition d'un esprit de soumission, c'est que nous n'aimons pas souffrir. Moi non plus, je n'aime pas souffrir, si j'en ai le choix. Si on me demandait de choisir entre une vie aisée et une vie de souffrance, je choisirais bien sûr la première. Comprenez bien que je ne parle pas ici de souffrance qu'on s'infligerait soi-même, comme l'ont fait certains ascètes au cours des siècles. Il ne s'agit pas de vous infliger des souffrances pour affliger votre chair, mais plutôt d'être prêt à souffrir pour la justice, si c'est nécessaire. Et la Bible nous enseigne que ceux qui veulent servir Dieu, ceux qui veulent marcher sur le chemin de la justice, auront très probablement à souffrir pour cela. Ainsi, le premier homme de foi dont la Bible fait mention a été tué. C'était un jeune homme, apparemment non marié et sans enfant. Du moins, il n'existe aucune preuve qu'il ait eu des descendants. Nous ne savons pas exactement quel âge avait Abel lorsque Caïn l'a tué, mais son nom est le premier à être mentionné dans Hébreux chapitre 11, le chapitre de la Bible consacré aux hommes de foi. Manifestement, Abel a souffert pour avoir obéi à Dieu. Cette fois, il l'a payé de sa vie. Si vous parcourez Hébreux chapitre 11, vous lirez l'histoire d'hommes et de femmes de foi qui avaient mis toute leur confiance en Dieu et qui étaient prêts à souffrir au besoin. Oui, ils étaient disposés à souffrir plutôt que de suivre leur propre voie dans l'intention de se protéger. Vous voyez, Lorsque votre but est d'éviter à tout prix d'avoir à souffrir, votre vie finira par être assujettie à toutes sortes de stratégies d'autoprotection. Je ne veux pas être meurtri. Je ne veux pas qu'on abuse de moi. Pensez à Sédécias lorsqu'il disait « Non, j'ai peur, je ne peux pas faire ça. Si je me rends, les gens pourraient se moquer de moi. » Eh bien, ce fut un très mauvais choix de sa part. Et pourtant, mettez-vous à sa place. Combien d'entre nous n'ont-ils pas fait un mauvais choix par peur des circonstances physiques qui pourraient en résulter? Nous avions peur que cela nous cause préjudice, que cela soit douloureux, que cela soit embarrassant ou humiliant. Bref, nous avions peur. Alors nous avons dit, « Je crois que je ferais mieux de me protéger. » Pierre a dit qu'il nous faut nous armer de la même pensée, du même esprit, l'esprit de Christ. Voilà comment atteindre une vie de soumission. Il vous faudra acquérir l'esprit de Christ. Cela impliquera que vous soyez prêt à endurer la persécution, à être prêt à souffrir pour la justice. À nouveau, 1 Pierre 4, verset 1. 1 Pierre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, de la pensée de Christ. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant tout le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Vous savez, dans le passé, nous prenions la vie comme elle venait. Nous nous comportions comme tout le monde, et nous avons marché dans toutes les voies que Paul nous décrit ici. Comportement enfreignant la loi, convoitise de toutes sortes, excès de vin, toutes sortes d'idolâtries abominables, et, finalement, asservissement aux voies de ce monde qui nous entoure. Et c'est pourquoi, lorsque nous abandonnons les voies de ce monde, les gens vous trouveront étranges, comme il est dit au verset 4. Aussi trouvent-ils étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Comme déjà mentionné, l'esprit de Christ se traduit par un cœur et un esprit de soumission. Dans Jean chapitre 5, verset 30, Jésus a dit, Jean 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus a dit qu'il ne cherchait pas à faire sa propre volonté. Un peu plus loin, dans Jean chapitre 6, verset 38, Jésus a dit, Jean 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus-Christ est venu, non pas pour se protéger lui-même, mais pour faire la volonté du Père. La première clé pour vivre une vie de soumission est que vous devez être prêt à souffrir pour elle. Si vous n'êtes pas prêt à souffrir plutôt que de pécher, alors vous ne vivrez pas une vie de soumission. Jésus-Christ était prêt à souffrir, même jusqu'à être crucifié. Il était prêt à payer le prix ultime pour vous et pour moi. Il s'est chargé de nos péchés. Les Écritures, notamment le Nouveau Testament, nous donne de nombreux exemples de cela. Considérez ces persécutions que certains ont dû subir. Vous savez, nous avons tous nos problèmes et nos difficultés, et certaines personnes que je connais en ont plus que d'autres. Aimeriez-vous rencontrer l'apôtre Paul après la résurrection, histoire d'échanger vos expériences passées? Vous voyez-vous alors lui parler de certaines des frustrations que vous avez ressenties parce que l'un de vos collègues de travail avait un jour refusé de vous parler? Combien cela vous a affecté et combien vous en aviez souffert? Mais cela se compare-t-il à certaines des expériences que Paul a connues, telles que relatées dans le livre des Actes? Lorsque vous parcourez la Bible, et voyez les épreuves qu'ont vécues certains hommes qui ont finalement dû payer de leur vie, cela vous donne une meilleure perspective au sujet de ce que vous et moi devons affronter. En effet, je ne connais personne, ni dans cette salle, ni parmi les autres membres de l'Église, qui ait jamais connu l'ampleur de la souffrance que certains des serviteurs de Dieu ont eu à endurer au cours des âges. D'ailleurs, il n'y a pas seulement la Bible qui relate de tels événements, on en trouve aussi dans l'histoire séculaire. Nous le savons, et la Bible en parle, l'avenir nous prépare des temps d'intense persécution physique. C'est là qu'il faudra mettre nos priorités à la bonne place. Ce n'est rien de faire ce que Dieu nous demande, lorsque c'est commode et facile. Le vrai test, c'est quand c'est difficile, quand cela semble nous exposer à être blessés ou abusés. En parcourant le livre des Actes, vous apprenez que l'apôtre Paul a été capturé et battu dans une ville, et qu'il y a été lapidé et laissé pour mort. Qu'a-t-il fait ensuite? Eh bien, il s'est relevé et est allé dans la ville voisine pour y prêcher à nouveau. Voyez, Paul avait une mission. Il avait la vision du grand plan d'ensemble. Il était prêt à souffrir plutôt que de s'en détourner. L'une des choses qui a dû hanter l'esprit de Paul, c'est le souvenir de cette époque où lui, Paul, causait des souffrances aux autres. Oui, il fut un temps où Paul arrêtait les gens, les faisait jeter en prison, les faisait souffrir, et s'efforçait de les faire renoncer au christianisme. Sans aucun doute, Paul a gardé ce souvenir tout au long de sa vie, particulièrement maintenant qu'il se trouvait lui-même du côté des victimes et passait par des moments difficiles. Mais il avait une juste perspective des choses, car il avait les yeux tournés vers Jésus-Christ. La première clé qui mène à une vie de soumission, c'est donc d'être prêt à souffrir. Tournons-nous à présent vers 1 Pierre chapitre 4 et notons le deuxième point vital que Pierre présente à tous ceux qui sont prêts à mener une vie de soumission. Au verset 7, il dit, 1 Pierre 4, verset 7 à 9, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Puis notez ce qui suit. « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Ne vous querellez pas entre vous, mais ayez les uns pour les autres un amour fervent. C'est là le signe d'une vie de soumission. Par ailleurs, lors de sa dernière nuit sur terre, en tant qu'être humain, la nuit de sa dernière Pâque, Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, Jean 13, verset 35, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Pierre était là, Pierre a entendu ces mots, et il n'est donc pas étonnant que, des décennies plus tard, Pierre ait écrit ce que nous avons lu tantôt dans 1 Pierre chapitre 4 au verset 8. « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. » Il savait à quel point cela était nécessaire. Il est facile d'aimer et d'être aimable avec ceux qui sont aimables envers nous. Lorsque quelqu'un vient au-devant de vous avec un beau sourire et qu'il vous dit des choses aimables ou flatteuses, cela ne vous fait-il pas du bien et ne vous encourage-t-il pas à lui rendre l'appareil? Bien sûr. Mais qu'en est-il lorsque quelqu'un vous a offensé? Qu'en est-il des personnes qui vous déçoivent ou qui sont simplement différentes de vous? Vous savez, c'est là un point intéressant. Parce que Christ n'a pas seulement aimé ceux qui l'ont aimé. Dans Jean chapitre 13, au verset 1, il est question de la Pâque qui approchait. Et Christ savait qu'il allait quitter le monde pour retourner au Père. À la fin du verset 1, il est dit, Jean 13, verset 1, « Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il les aima donc jusqu'à la toute fin. Si vous poursuivez votre lecture, vous apprenez que, alors que le diable avait déjà infiltré Judas, Jésus s'était levé de table. C'était juste avant qu'il n'institue les nouveaux symboles du pain et du vin. Il y avait du pain et du vin sur la table, mais Jésus ne les avait pas encore consacrés comme il allait le faire peu après, en tant que nouveau symbole de la Pâque chrétienne. Après s'être levé, Jésus avait d'abord pris une serviette et commencé à laver les pieds des apôtres. Et ce n'est qu'ensuite qu'il institua la nouvelle façon d'observer la Pâque. Puis, après avoir célébré la Pâque, ils quittèrent la ville pour entrer dans le jardin de Gethsémané, où Jésus, nous dit-on, commença à avoir le cœur lourd. Il se sentait accablé, découragé, déprimé, car il était parfaitement conscient de ce qui l'attendait. Alors il prit à part ceux dont il se sentait le plus proche, Pierre, Jacques et Jean, son cercle intime. Puis il leur dit, « Je vais prier mon Père, veillez auprès de moi et priez vous aussi, car je me sens accablé, découragé et déprimé, et j'ai le cœur lourd. » Rien n'indique qu'avant cela, Jésus leur ait jamais demandé de faire grand-chose pour lui. Du moins, c'est ce que vous pourrez constater en parcourant les évangiles. Mais cette fois-ci, il a fait une exception, disant, « Mes amis, s'il vous plaît, priez avec moi. » Sur ce, il s'était éloigné d'eux quelque peu et a commencé à prier en y mettant tout son cœur. Puis, après avoir prié pendant une heure, il est revenu auprès d'eux et les trouva endormis. Les ayant réveillés, il leur dit, « Ainsi, vous n'étiez pas capable de veiller avec moi pendant une heure ? » Imaginez un peu la situation. Vous êtes confronté à l'épreuve la plus difficile de votre vie, une situation traumatisante à laquelle vous n'avez encore jamais dû faire face. Et vous allez alors vers ceux qui vous sont les plus proches et leur demandez sur un ton suppliant, « Pourriez-vous prier avec moi, car je me sens vraiment accablé. Je vais aller prier, alors, s'il vous plaît, priez avec moi. » Or, voilà qu'en revenant auprès d'eux un peu plus tard, vous les trouvez endormis et qui ronflent. Vous les réveillez alors et leur dites, « Ainsi, vous n'avez pas pu prier avec moi pendant une heure ?» Surpris et gênés, les voilà qui se mettent à balbutier, « Oui, oui, on va faire ça. » Finalement, le scénario se répétera trois fois. En revenant pour la troisième fois, il leur dira finalement, « Vous pouvez continuer à dormir. Maintenant, il est trop tard. » S'est-il alors mis en colère? A-t-il dit, « Si vous ne pouvez pas me montrer plus de considération que cela, j'en ai fini avec vous. » Non, Jean chapitre 13, verset 1 dit qu'il les a aimés jusqu'à la fin. Il les a aimés alors même que leur comportement laissait à désirer. Et nous, ne sommes-nous pas heureux qu'il nous ait aimés lorsque nous étions difficiles à aimer? Et avouons-le, ne sommes-nous pas encore difficiles à aimer parfois? Vous savez, lorsque vous considérez ces différentes personnalités que la Bible nous décrit, il faut bien avouer que si certaines sont faciles à aimer, surtout lorsque nous nous reconnaissons en elles, d'autres, par contre, réclameront un certain effort de notre part pour que nous puissions les aimer. Cela dit, penchons-nous un peu sur le récit de Luc, dans Luc chapitre 10, verset 38, un passage où il est question de Jésus qui se rend chez Marie, Marthe et Lazare. Il y avait là plusieurs personnes assemblées, notamment ses disciples, et probablement aussi d'autres personnes. Nous y voyons Marthe toute affairée à préparer le dîner pour tout ce monde. Mettez-vous un peu dans sa situation. Cela devait sûrement représenter beaucoup de travail, une maison pleine de convives qui tous s'attendent à manger sous peu. Marthe s'active. Mais où est Marie? Eh bien, elle est dans le salon avec les hommes, assise à écouter Jésus, plutôt que d'être dans la cuisine pour aider Marthe à préparer le repas. Tout d'abord, Marthe se contient et fait preuve de patience. Mais la patience a ses limites. Alors, elle sort, interrompt tout ce qui se passe et dit, verset 40, Luc 10, verset 40, « Seigneur, ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Elle a dû se dire, « C'est tout de même incroyable. Elle est assise ici et me laisse tout faire seule. » Selon Marthe, Marie était en faute parce qu'elle n'était pas venue l'aider. Mais, indirectement, elle reproche aussi à Jésus de ne pas s'être objectée à ce que Marie reste assise là auprès de lui, sachant fort bien que elle, Marthe, était seule à faire tout le travail à la cuisine. « Ça ne te fait rien qu'elle me laisse seule à faire tout le travail ?» lança-t-elle à Jésus. À cela Jésus répondit, verset 41, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Oui, Marthe, tu es affairée et troublée par beaucoup de choses. » Tu te préoccupes vraiment des choses matérielles, n'est-ce pas, Marthe? Tu aimes vraiment que tout soit bien aligné et que tout soit parfait. Te voilà toute stressée. Mais, tu sais, il n'y a qu'une chose qui est vraiment importante. Certes, nous allons avoir un bon repas dans quelque temps, et nous allons en profiter. Mais, tu sais quoi, Marthe? Dans quelques heures, nous aurons à nouveau faim. C'est pourquoi je te dis qu'à long terme, il n'y a qu'une chose qui compte vraiment. Et Marie a choisi cette chose. Et il ajoute, verset 42, « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Oui, Marie écoute les paroles de la vie. C'est ce qui va durer jusque dans l'éternité. Mais, en ce qui concerne le merveilleux repas que tu nous prépares, dans quelques heures, nous chercherons d'autres choses à manger. Nous aurons à nouveau faim. Ce à quoi je veux en venir, frères et sœurs, c'est qu'il est facile pour nous, selon notre personnalité, de nous identifier à Marie ou à Marthe. Et nous avons parmi nous des Maries, des Marthes et toutes sortes de personnalités intermédiaires. Le problème, c'est que, parfois, les Maries ont du mal à comprendre les Marthes. Et les Marthes savent que les Maries ne sont pas utiles à grand-chose, vu qu'elles ne prêtent pas main forte quand il y a du travail à accomplir. Notez aussi cette déclaration intéressante faite dans Jean 11, verset 5. Jean 11, verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Oui, Jésus les aimait tous les trois. Il aimait Marthe, qui courait dans tous les sens et qui se préoccupait de tant de choses. C'était une femme d'action. Mais Jésus aimait aussi Marie et Lazare. Il les aimait tous, en dépit de leurs différences. Et puis, considérez ses disciples. C'étaient des hommes très différents, eux aussi. Jésus a appelé des gens de différents milieux et de différentes personnalités, toutes sortes de gens. Ainsi, certains de ses disciples venaient d'un milieu que l'on pourrait qualifier de religieux. Nous le savons, car Jean chapitre 1 nous dit que deux des disciples de Jésus avait auparavant été disciple de Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste passait pour un ascète très strict. On peut lire dans Jean chapitre 1, verset 35, Jean 1, verset 35, « Le lendemain, après que Jésus eut été baptisé par Jean-Baptiste, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Nous ne savons pas depuis combien de temps ils étaient avec lui, mais le ministère de Jean ayant probablement débuté 6 mois plus tôt, ils étaient donc avec lui depuis quelques mois. Ces disciples de Jean-Baptiste passaient pour être plutôt religieux. Ils avaient vraiment à cœur de se pénétrer de la vérité. Ils étaient stricts dans leur approche religieuse. Le verset 36 poursuit en disant, « Et ayant regardé Jésus qui passait, il, Jean-Baptiste, dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Ainsi, voyant passer Jésus, Jean-Baptiste mentionna à ses deux disciples, « Vous savez qui c'est, les gars? C'est l'agneau de Dieu. » Dès que les deux disciples eurent entendu cela, ils se mirent à suivre Jésus. Plus loin dans le récit, au verset 40, nous apprenons que l'un d'eux s'appelait André. Il était le frère de Pierre. Verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Le nom de l'autre n'est pas mentionné, mais il pourrait s'agir de Jean, lequel évite généralement de donner son nom. Il y avait donc ces deux disciples de Christ, dont on peut dire qu'ils étaient portés vers la religion. D'un autre côté, il y avait aussi le vieux Matthieu, un publicain, un collecteur d'impôts, un gars plutôt mondain et habitué à brasser des affaires, surtout avec les Romains. Matthieu avait été éduqué dans le but de s'intégrer à l'administration civile romaine. Il était donc issu d'un milieu très différent des deux autres disciples, d'un milieu que beaucoup de juifs stricts de l'époque considéreraient avec mépris. Certains ont alors dû se dire « Pourquoi diable Jésus devait-il appeler quelqu'un comme lui ?» Et puis vous avez encore là ce Pierre, l'impétueux Pierre, un homme toujours prêt à foncer. Mais Jésus aimait Pierre. Et puis, vous avez aussi Jacques et Jean, n'est-ce pas? Jésus leur avait donné le surnom de « fils du tonnerre ». Oui, souvenez-vous de cette fois où Jésus et ses disciples traversaient la Samarie. Jésus avait envoyé quelques-uns d'entre eux dans un village pour y acheter de la nourriture. On les avait alors dévisagés en leur demandant « Vous allez à Jérusalem ?» Lorsqu'ils ont répondu que oui, ils se sont fait dire « Nous ne vendons pas de nourriture à des gens comme vous. Nous n'allons tout de même pas vendre de la nourriture à des gens comme vous, des Juifs, en route pour Jérusalem. » C'est pourquoi, à leur retour, lorsqu'ils repassèrent par cet endroit, Jacques et Jean, qui n'avaient pas oublié l'affront qu'ils avaient subi à cet endroit, dirent « Seigneur, veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel pour consumer tous ces gens-là » Mais Jésus leur répondit en secouant la tête « Les gars, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Et c'est pourquoi il les avait surnommés « fils du tonnerre ». Et puis une autre fois, ayant vu des hommes chasser des démons au nom de Jésus, ils s'étaient offusqués de cela et leur avaient commandé de cesser leur pratique. Cependant, lorsqu'ils relatèrent ces faits devant Jésus, celui-ci répliqua en disant « Qui vous a dit de vous impliquer dans cette affaire? Qui vous a demandé de leur ordonner de cesser cette pratique ?» Oui, c'était des fils du tonnerre. Jean était colérique et ambitieux. Rappelez-vous cet incident où ils avaient cherché à s'attirer des faveurs, disant « Seigneur, nous savons que tu vas hériter ce royaume. Alors, nous aimerions, mon frère et moi, que tu fasses de nous tes bras droits. En un mot, nous aimerions siéger à ta droite et à ta gauche. » À un autre moment, ils ont même convaincu leur mère, qui était probablement la tante de Jésus, qu'elle s'avance vers Jésus et lui demande cette même faveur pour ses garçons. Bien sûr, les autres disciples furent offusqués en voyant toutes ces manœuvres. Donc, d'un côté, Jean avait un côté très profond et réfléchi, mais d'un autre côté, il pouvait aussi être colérique et prêt à mener des tractations en coulisses pour satisfaire ses ambitions. Et que dire du vieux Thomas qui passait pour être pessimiste et sceptique? Souvenez-vous de cette fois où Jésus voulut revenir dans les environs de Jérusalem en apprenant la situation de son ami Lazare. Jésus avait failli être tué en se rendant là quelques semaines auparavant. On voulait en fait le lapider, mais il n'hésita pas un instant pour y retourner. Sur ce, Thomas, ayant regardé les autres disciples, se mit à ajouter « Oh, après tout, pourquoi ne pas l'accompagner et mourir aussi avec lui ?» Le type du parfait pessimiste qui s'attend toujours au pire. Et puis, il y a Nathaniel qui, assurément, n'a jamais remporté un prix pour avoir fait preuve de tact. Jésus avait dit à son sujet « Voilà un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. Vous n'avez pas à vous demander ce que Nathaniel pense, car il ne tardera pas à vous le dire. » Il y a notamment cette anecdote à propos de lui dans Jean chapitre 1. Il y a question de Philippe, qui était de la même ville qu'André, Jean et Jacques. Eh bien, Jésus avait envoyé Philippe vers Nathaniel pour lui dire « Nous avons trouvé le Messie, c'est Jésus de Nazareth. » Nathaniel l'avait alors regardé et dit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Pourquoi voulez-vous m'entraîner avec vous pour aller voir quelqu'un de Nazareth ? Lorsque Jésus l'eut rencontré, il l'avait regardé et dit Eh bien, je vois que tu es un Israélite sans qui il n'y a pas de ruse. On n'a jamais à se demander si tu nous caches quelque chose, Nathaniel, car tu nous parles toujours à cœur ouvert. Ainsi, les disciples de Jésus reflétaient une variété de personnalités. Mais Jésus les a tous aimés. Il les a aimés jusqu'à la fin, et il les aime toujours. Pouvons-nous, vous et moi, avoir ce genre d'approche, ce genre d'attitude? Dans ses écrits, Pierre nous enjoint donc à nous armer du même esprit, l'esprit de Christ. Oui, soyez prêts à souffrir pour la justice, et, par-dessus tout, dit-il, ayez les uns pour les autres un amour fervent. Il est si facile d'être assailli de problèmes et de difficultés parce que quelqu'un nous tombe sur les nerfs. Cependant, lorsque vous parcourez les Écritures, vous découvrez une grande variété de personnalités. Dieu n'a pas choisi de travailler à travers un seul type de personne ayant toutes les mêmes points forts. En réalité, chaque personnalité a ses forces et ses faiblesses. Nous sommes tous différents, mais Dieu a placé chaque membre du corps où il lui plaît. Poursuivons. Examinons un dernier point, ici dans 1 Pierre chapitre 4, alors que nous en arrivons au terme de notre analyse des différentes facettes représentatives de l'amour divin. Au verset 10, il nous est dit, 1 Pierre 4, verset 10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous met au service des autres le don qu'il a reçu. » Le terme « grâce » qui apparaît ici vient du grec « charas » qui signifie littéralement « ce qui est donné ou octroyé ». Cela peut souvent faire référence à un pardon qui nous est accordé bien que nous ne l'ayons point mérité, mais il peut s'agir de plus que cela. Il peut aussi s'appliquer plus généralement à tout ce qui nous est accordé gratuitement. Il nous est demandé d'être de bons dispensateurs des nombreux dons de Dieu. Oui, tout ce que Dieu nous a accordé, nous devons le faire fructifier à bon escient. Puis au verset 11, on nous donne quelques exemples. 1 Pierre 4, verset 11. « Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Chaque personne a des dons différents, et tous ces dons sont importants. Certaines personnes peuvent servir d'une manière, d'autres d'une autre. Vous savez, il est intéressant de noter que lorsque vous parcourez le Nouveau Testament, notamment le livre des Actes, vous ne trouverez aucun écrit attribué à Barnabas. Pourtant, deux des hommes qui, humainement parlant, ont joué un rôle important dans la rédaction du Nouveau Testament, devaient peut-être leur contribution à Barnabas. Soit dit en passant, nous parlons communément de Barnabas, car si nous parlions de Joseph, le Lévite originaire de Chypre, la plupart d'entre nous ne sauraient pas de qui il est question. C'est que Barnabas est un surnom que les apôtres avaient donné à ce Joseph, surnom qui signifie « fils d'exhortation » ou « fils d'encouragement ». Seul Actes, chapitre 4, verset 36, mentionne cela. Barnabas n'était donc pas son vrai nom, mais, voyez-vous, c'était un homme tellement encourageant et optimiste que chaque fois qu'il est mentionné, tout au long du livre des Actes et ailleurs, il est toujours désigné par ce surnom, car c'est ce qui le caractérise le mieux. Vous souvenez-vous de l'histoire de la conversion de Saul, quand il a été frappé d'aveuglement sur la route de Damas? Le livre des Actes mentionne que, plus tard, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, la plupart des disciples ne voulurent même pas avoir affaire à lui. Ils déclaraient, « Nous n'avons pas confiance en ce type. Nous avons bien entendu dire qu'il était censé s'être converti et qu'il avait été baptisé à Damas, mais nous ne prenons pas ses dires au sérieux. » En conséquence, ils ne voulurent pas traiter avec lui. C'est Barnabas qui l'a amené vers eux en disant, « Tenez, j'aimerais vous faire faire la connaissance de quelqu'un. » C'est lui qui l'a amené vers eux. Même après cela, ces derniers lui ayant finalement parlé, ils le congédièrent en disant, « Écoute, ne nous appelle pas. Nous te ferons signe si nous avons besoin de toi. » Alors Saul, encore appelé Paul, était rentré chez lui, dans sa ville natale de Tarse, où, pendant quelques années, il se remit à fabriquer des tentes. À un moment donné, Barnabas ayant été nommé pasteur de l'église d'Antioche, il ne tarda pas à se rendre à Tarse pour inviter Saul à le suivre à Antioche pour l'assister dans son ministère. Il a donc travaillé avec lui, et ils ont même fait leur premier voyage d'évangélisation ensemble. Paul avait une personnalité très différente de celle de Barnabas. Il devint l'un des grands héros de la Bible. Dieu s'est largement servi de lui. Cependant, je pense que Paul n'a probablement pas été un homme avec lequel il était facile de travailler. Il s'impliquait à fond dans l'œuvre de Dieu. Lorsque vous parcourez le livre des Actes, vous apprenez que lui et Barnabas décidèrent de se faire accompagner dans leur voyage par le jeune Jean-Marc en tant qu'assistant. Jean-Marc était le neveu de Barnabas. Eh bien, il n'a pas fallu beaucoup de mois à Jean-Marc pour se décourager devant l'ampleur de la tâche qu'on lui imposait. Et c'est pourquoi il a fini par dire « Mes amis, je vais devoir vous quitter et prendre le prochain bateau pour retourner à Jérusalem. » Paul était dégoûté. Plus tard, quand vint pour eux le moment d'entreprendre leur deuxième voyage, juste avant de partir, voilà que Barnabas se met à dire « Écoute, Paul, j'ai parlé à Jean-Marc. Il me semble qu'il a beaucoup grandi depuis que nous l'avons associé à notre premier voyage, et je pense qu'il en a retiré quelques leçons. Il m'apparaît donc indiqué de l'encourager en l'invitant à se joindre à nous une nouvelle fois, maintenant que nous sommes sur le point d'entreprendre notre deuxième voyage. Qu'en penses-tu ? » Paul répondit alors sèchement, « Jamais de la vie, c'est hors de question, c'est un lâcheur. » Mais Barnabas insista, « Non, non, il faut qu'il vienne, il se sent mal, il a besoin d'être encouragé. « Emmenons-le. » Mais Paul refusa obstinément. Ils furent donc contraints de voyager séparément. Barnabas prit avec lui Marc, quant à Paul, il prit Silas. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le dernier livre que Paul a écrit vers la fin de sa vie, il a reconnu que Barnabas avait eu raison. Ainsi, dans 2 Timothée chapitre 4, Paul insiste auprès de Timothée pour qu'il vienne le rejoindre au plus vite, de préférence avant l'hiver, tout en amenant avec lui Marc qui, ajoute-t-il, me sera utile dans le ministère. Le voilà donc qui trouve que Marc lui sera profitable. « J'ai besoin de lui, dit-il. Je sais que je peux compter sur lui. Alors, amène-le avec toi, car j'ai une tâche importante à lui confier, et je sais que je peux compter sur lui pour l'accomplir. » Paul a écrit plus de livres du Nouveau Testament que n'importe qui d'autre. Marc, quant à lui, a écrit l'Évangile qui porte son nom. Pour ce qui est de Barnabas, il n'était peut-être pas porté à écrire. Par ailleurs, nous ignorons quel genre de prédicateur il était. Peut-être était-il meilleur orateur que Paul. Le plus grand don de Barnabas n'était pas de pouvoir expliquer des concepts profonds comme ceux que Paul abordait dans le livre aux Galates ou dans celui aux Romains. Il n'avait peut-être pas l'intelligence ou la profondeur d'esprit de Paul, mais, en revanche, Barnabas avait le don de l'encouragement. Des personnes différentes ont des dons différents. Ne minimisez pas le don que vous avez ou que d'autres ont. Pierre a dit « Soyez de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Comprenons que les choses que nous avons reçues de Dieu, il nous faut nous en servir à bon escient et les faire fructifier. Utilisons-les de manière à servir et à aider notre prochain. Chacun a des dons différents et chaque don est important. » Chaque membre du corps de Christ est important. C'est ce que Paul nous explique. Frères et sœurs, une vie autodirigée ne nous mènera jamais à un réel succès. Lorsque nous refusons de vivre une vie de soumission, cela ne peut mener qu'à l'échec. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Lorsque notre but sera de protéger le moi, nous irons au-devant de problèmes. Et il existe de nombreux exemples pour illustrer cela. C'est l'inverse qui attendra ceux qui opteront pour une vie de soumission. Ce sera le lot de ceux qui auront l'esprit du Christ, car Christ nous a donné un parfait exemple de soumission à la volonté du Père. Il était prêt à souffrir pour la justice. Il était prêt à souffrir afin de plaire au Père et de faire sa volonté. Aux yeux de Christ, ce que le Père pensait était plus important que ce que les gens pensaient, plus important que tout ce qui se passait autour de lui. C'est cela, une vie de soumission. Il nous faut être prêts à souffrir si nous voulons vivre une vie de soumission. Nous ne pouvons pas avoir peur de ce que les gens vont dire ou faire. Il nous faudra accepter de souffrir. De plus, une vie de soumission se traduira par un amour fervent les uns pour les autres. Oui, un amour fervent, pas un amour tiède et limité à quelques personnes seulement, mais un amour fervent pour notre prochain en général. Donc pour une multitude de personnes et une grande variété de personnalités. Ainsi, lorsque Jésus-Christ a contemplé ses disciples, il les a tous aimés, et il les a aimés jusqu'à la fin. Vous ne pouvez pas vous contenter d'aimer les gens quand ils se comportent bien à votre égard. Il nous faut aussi les aimer dans les mauvais moments. En résumé, ayez un amour fervent envers votre prochain, et soyez de bons dispensateurs des diverses grâces que Dieu vous a accordées en particulier. Peu importe les dons que vous avez reçus, faites-en une bonne gestion. C'est très important. Pierre avait les yeux tournés vers l'avenir. Il avait appris beaucoup de leçons depuis l'époque où il était ce jeune homme impétueux et impulsif que Jésus avait aimé. C'est que lorsque Jésus observait Pierre à l'époque, il voyait ses qualités exceptionnelles de leader et discernait ce que Pierre pouvait devenir. Certes, Pierre avait ses problèmes. Même si Dieu éprouvait pour lui un amour fervent, il n'était pas aveugle. Il voyait clairement que Pierre avait certains défauts, mais Jésus l'a aimé malgré tout. Pierre avait appris bien des leçons, et maintenant qu'il avait acquis plus de maturité, le voilà qui dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 1, 1 Pierre 5, verset 1, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. » Il voulait dire, « Écoutez, au fil des ans, j'ai appris quelque chose à propos de la vie. J'ai vu Jésus souffrir. Je suis témoin de ses souffrances. J'ai vu jusqu'où il était prêt à aller pour vous et pour moi. Je sais aussi qu'un jour, je serai participant de la gloire qui sera révélée en nous. » Vous souvenez-vous du récit de la transfiguration, dont il est question notamment dans l'Évangile selon Matthieu, lorsque Pierre, Jacques et Jean reçurent cette vision là-haut sur la montagne et que Jésus leur apparut dans sa gloire en compagnie de Moïse et d'Élie? Pendant un bref moment, Pierre, Jacques et Jean ont ainsi été transportés en vision dans le royaume de Dieu. Fort de cette expérience qui lui est restée jusqu'à la fin de sa vie, Pierre pourra dire en rétrospective, « J'ai été témoin des souffrances de Christ, et je vais pouvoir participer à la gloire à venir pour nous. » Et il ajouta, « Je peux vous dire quelque chose. Cette gloire à venir dépassera de loin, de très loin, toutes les souffrances que nous pourrons être appelés à traverser. »